7 fois par jour, les moniales se retrouvent dans l'église à nef unique, de style mi-gothique méridional, mi-renaissance tardif, pour prier et louer Dieu. Une église récemment restaurée. Sœur Ambeline que nous retrouvons dans le chœur.
Donc l'église se présente avec une nef unique, donc un vaisseau simple. Et en fait, au milieu de cette église, il y a une séparation, donc, qui est maintenant, on le voit avec deux colonnes qui ont été construites en stuc marbre, imitation marbre. Mais à la place de ces colonnes, il y avait autrefois un mur de séparation, voilà, un mur avec au centre une ouverture, et dans cette ouverture, une grille. Voilà, et deux portes latérales. Il date, il me semble, du XVIIe siècle. Il avait été posé ici au XVIIe siècle. Pour permettre aux moniales, en fait, de se mettre dans la partie du fond de l'église et de suivre l'office derrière la grille et permettre aux fidèles de se mettre dans le chœur, en fait.
Alors que maintenant, c'est l'inverse, les moniales.
Voilà, exactement. Sont parce qu'en fait, en 1949, quand nos anciennes sont arrivées, comme elles étaient peu nombreuses, elles se sont mises directement de l'autre côté, donc dans le chœur, pour être plus proches de l'autel. Et elles ont enlevé la grille qui se trouvait dans la partie du mur, là, et puis aussi ouvert une porte dans le fond de l'église, et aussi un accès à l'hôtellerie, pour permettre aux fidèles de participer aux offices. Et puis après Vatican II, elles ont enlevé cette grille et pratiqué ces ouvertures. Et nous avons décidé il y a 2 ans d'enlever ce mur de séparation et de mettre à la place des colonnes pour permettre une meilleure visibilité.
Et c'est Pierre Mongin qui en 2011 a obtenu son diplôme de meilleur ouvrier de France stucateur qui a réalisé ces deux magnifiques colonnes qui à la place du mur tiennent à présent la tribune.
En fait, je suis maître artisan métier d'art. Plâtrier, staffeur, stucateur. Voilà, donc ça comprend tous les métiers du plâtre. Que ce soit la plâtrerie traditionnelle, la fabrication de staff, moulure, corniche et rosace, et le stuc, donc ce que j'ai fait à Boulor, c'est-à-dire le stuc marbre, qui est de l'imitation de marbre à base de plâtre, technique qui existe depuis le 16e siècle, qui nous vient d'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, en fait, ils n'ont pas de marbre et donc ils ont inventé cette technique pour pouvoir avoir des marbres à l'intérieur de châteaux, d'églises, de choses comme ça. Et les plus anciens panneaux colonnats, c'est la Reichskapelle de Munich, où un des panneaux est daté de 1591.
J'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de votre relation avec les sœurs, justement, à Boulor. Comment, pourquoi c'est elles qui vous ont appelé? Comment ça s'est fait? Vous les connaissiez auparavant voilà.
Alors, pas du tout. En fait, le lien, c'est l'architecte en chef des monuments historiques, M. Touin, qui a fait le lien. Lui, je le connais depuis quelques années, parce que j'ai fait quelques chantiers avec lui. Et en fait, c'est lui qui m'a présenté à l'abbaye et donc à la communauté des sœurs pour faire ce travail un peu particulier. Donc au départ, c'était un peu confus. On s'est un peu mélangé parce qu'il voulait faire du plâtre, hein, et puis après c'était du stuc, et puis c'était plus du stuc. Moi, j'avais compris stuc pierre. Puis en fait, finalement, au fur et à mesure des discussions et des rencontres avec la communauté, notamment sœur Sylvaine et sœur Marine, puisque c'est elle qui s'occupait des travaux, et la mère abbesse, sœur Emmanuelle. Au fur et à mesure des discussions, on a fini par comprendre que donc, c'était plutôt une imitation de marbre qu'elle voulait. Et voilà, donc on a commencé. Donc ma première rencontre, ça a été assez, assez rigolo, parce que donc, j'avais des échantillons. Je leur présentais en fait la technique. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec elle. Cette réunion-là, donc, il y avait toute la communauté. Je présentais mes échantillons, j'étais extrêmement surpris de la jeunesse de la communauté et de la façon dont ça s'est fait. En fait, moi, j'ai présenté mon travail et puis elle discutait. Enfin, c'était assez, assez confus comme discussion. Et puis, finalement, elles ont bien apprécié la chose. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et donc, la question qui s'est posée, c'était quelle couleur elles envisageaient donc pour ces fameuses colonnes et pilastres, et quelle était la couleur dominante. Donc après, j'ai fait des échantillons de marbre connu, notamment des Pyrénées, donc il y avait le Campan rubanais de la région de Campan, il y avait un échantillon de Sarrancolin, de la commune de Sarrancolin, et donc ce qu'on a Minervois. Et en fait, voilà, on s'est posé la question si le rouge c'était bien pour l'Église. Est-ce que ça représentait la passion? Est-ce que voilà, il y a eu plusieurs. On essayait plus ou moins d'orienter la couleur ou l'essence d'un marbre par rapport à une symbolique. Voilà. Au fur et à mesure des échantillons, elles ont préféré voilà, le cône minervois. Et effectivement, c'est du cône minervois.
C'est vous qui avez réalisé ces deux grandes colonnes, des pilastres.
Contre les murs, ce sont les pilastres. Oui. Les pilastres, ce sont des, on va dire des colonnes carrées, mais ça ne va pas de dire ça. Mais les pilastres, ce sont des choses carrées. Oui. Et en général, ça va contre les murs. Et en vis-à-vis de ces pilastres, il y a toujours une colonne. Donc ça, ce sont les ordres d'architecture. Et donc là, Boulor, l'architecte a voulu du toscan. Donc c'est l'ordre, le premier ordre des ordres d'architecture. Et c'est un ordre qui est assez simple, je dirais, qui n'a pas de fioritures. D'ailleurs, les sœurs avaient cette volonté-là aussi, de ne pas vouloir trop mettre, que ce ne soit pas trop ostentatoire.
Oui, parce que c'est dans l'esprit de l'ordre de Cîteaux aussi.
Exactement, exactement, voilà. Et en fait, ces colonnes-là, elles sont là parce que ça habille une structure métallique qui soutient cette fameuse tribune qui a été refaite parce que l'ancienne tombait, quoi, voilà. Et qui, elle, était soutenue par un mur. Donc ce mur a été, pour la visibilité des fidèles pour la messe, hein, où avant il y avait une porte étroite où les gens ne faisaient qu'entendre, ils ne voyaient pas forcément. Avec là, maintenant, ils ont toute l'ouverture, sauf les deux colonnes qui des fois, se gênent un peu la vision, mais c'est rien du tout par rapport au mur, quoi.
Voilà. Quand vous êtes arrivé, le mur était en place encore ?
Ah oui, 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 moi je suis arrivé tout à fait à l'origine, parce qu'il a fallu que je fasse tous les relevés, parce qu'en fait, sur la tribune, le mur, la balustrade qui soutient la grille, a été refaite exactement avec les mêmes moulures, le même profil de moulure, le même profil de corniche qu'à l'existant. Mmh. La seule chose qui a changé, c'est que l'intérieur des panneaux, on a fait du stuc marbre, et au lieu d'avoir un faux bois, c'est un faux marbre qui a été peint sur le restant des moulures. Voilà, mais autrement, on a respecté exactement ce qu'il y avait à l'origine.
Et hier, d'ailleurs, elle me disait que lorsqu'elles ont réintégré l'église pour le chant, parce qu'elles chantent beaucoup les
oui,
offices,
fait,
il
oui.
a fallu se réapproprier les lieux aussi.
Oui.
Le chant, l'acoustique était différente.
Voilà. Ça, c'est pas étonnant, parce que d'abord, il y a eu beaucoup de restauration. Des portes ont été bouchées, d'autres ont été rouvertes. Le mur n'était plus là, donc forcément c'était beaucoup moins cloisonné. Voilà. Ah oui, et puis c'est vraiment. Si on n'a pas entendu une fois une messe chantée, il faut vraiment aller voir parce qu'on a les poils qui se hérissent sur les bras quand même. Hein.
Vous y alliez de temps, enfin, quand vous aviez 2-3 minutes, on va dire.
En fait, la première, c'est les premières fois que je suis allé pour les réunions de chantier, donc où rien n'était fait encore. Hein. On allait pour les travaux préparatoires et surtout faire les devis. Donc tout était encore en place. Hein. Et donc une fois, j'étais un peu en avance et donc j'étais à une messe, c'était l'après-midi. Et donc après, donc une fois les travaux finis, même une année après, donc je fais partie d'une association et j'ai invité cette association à participer à une messe, donc à la grande messe du dimanche, en chanté, en grégorien. Et j'avoue que les gens de l'association, pour ceux qui n'étaient pas forcément catholiques ou chrétiens, ont été surpris. Ouais. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut au moins entendre, voir une fois. Ouais.
Où sommes-nous ici ? C'est la salle de répétition de chant.
Dites-moi. Alors oui, c'est ce qu'on appelle nous chez nous la salle commune. C'est la salle dans laquelle nous faisons la répétition de chant parce que malheureusement à l'abbaye, nous n'avons pas encore aménagé une vraie salle de musique avec tout le nécessaire. Donc là, c'est la salle pour le moment qui est la plus grande dans laquelle nous pouvons nous retrouver une fois par semaine avec les sœurs, toute la communauté. Et puis nous répétons la messe du dimanche et l'office liturgique de la semaine et puis les pièces un peu extraordinaires qui peuvent se présenter au cours de la semaine quand il y a une fête, une solennité plus importante en tout cas. Voilà, nous répétons tout ça ensemble.
Sœur Sylvaine, vous êtes chantre.
Alors, disons qu'on peut dire chantre, on peut dire maître de chœur, voilà, parce qu'on est quand même deux chantres et deux sous-chantres, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même être un peu nombreuses dans la communauté à se former, à travailler ensemble pour pouvoir former, aider nos sœurs en tout cas à avoir une très belle unité de chœur. Donc il faut un peu des sœurs qui soient les moteurs et qui entraînent les autres. Et puis aussi, si jamais il y a une chantre qui manque, qui est malade, ben, il faut que les autres puissent prendre le relais.
Mais je dirais le rôle du maître de chœur, c'est de faire la répétition, de pouvoir enseigner. Et puis bah, les chantres à l'office sont là pour donner une impulsion et aider les sœurs justement à toutes chanter d'une manière très unie et vraiment de tout leur cœur pour que l'office soit beau et bien ensemble. Et ça, c'est très très important. L'office liturgique est quand même un des moments dans la journée où toute la communauté, sans exception, est réunie. Et c'est vraiment une louange pour Dieu, mais toutes ensemble. On n'a jamais de temps d'office liturgique individuel, toute seule dans nos cellules, si vous voulez. Ce n'est pas notre charisme. Nous, l'office liturgique est toujours très, très communautaire.
Lorsque les jeunes filles arrivent ici à Blore, qu'elles deviennent postulantes, elles apprennent à chanter. Il faut, ça s'apprend à chanter. Elles peuvent arriver, ne pas avoir de voix, ne pas savoir chanter. Et ensuite, vous en faites des sœurs qui chantent magnifiquement, comme je vous ai entendu depuis hier soir.
C'est vraiment très gentiment dit, merci. Oui, et ben, effectivement, puisque Saint Benoît dit dans la règle que le premier devoir du moine, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'office divin, justement, c'est la prière liturgique à l'église. Donc, une jeune fille qui entre, on ne lui demande pas un bagage musical. On la prend avec ce qu'elle a et comme elle est, il n'y a aucun souci. On n'exige rien du tout à la base. Mais il n'empêche qu'ensuite, pour sa formation, eh bien, elle a des cours de chant, des cours de latin, des cours de grégorien. Il y a tout un apprentissage. Et en plus, elle travaille avec la communauté pour les répétitions de chant. Elle est tout de suite associée à la communauté et à l'office divin, eh bien, à son rythme, bien sûr, mais elle chante avec les sœurs et elle s'associe aussi à la prière avec toute la communauté. Donc, c'est un apprentissage, mais qui est très long. Alors, je ne sais pas si vous voulez une petite anecdote. Oui. J'étais entrée au monastère avec un bon bagage musical et dans mon illusion, je m'imaginais qu'au bout de quelques semaines, le chant grégorien n'aurait plus de secret pour moi. Vraiment, avec beaucoup de fierté, j'abordais ça avec un enthousiasme fou. Et puis, au bout de quelques mois, c'est une catastrophe. Je me suis rendu compte que vraiment, je n'y connaissais rien, je n'y arrivais pas, je n'y comprenais rien. Et je suis allée voir ma supérieure à l'époque en lui disant, presque en pleurant, mais vraiment, non, j'y arriverai jamais, ce grégorien, j'y comprends rien. Et elle m'a dit, mais ma sœur, vous savez, il faut des années, même des dizaines d'années avant d'entrer dans cette forme de la liturgie. C'est une forme qui est vraiment très profonde, qui est tout à fait liée à la vie spirituelle et au progrès spirituel de chacune. Donc on ne peut pas dire qu'on va apprendre théoriquement le chant grégorien, comme ça, en quelques semaines. Alors bien sûr, on peut faire des progrès en quelques semaines, mais ça peut rester très extérieur, alors que le chant grégorien, ce n'est pas du tout un chant extérieur. Ce n'est pas comme une musique quelconque, enfin, qu'on apprendrait dans un conservatoire, pour briller ou pour être meilleur, non ?
C'est pas du baroque, on fait pas.
Exactement, ça n'a rien à voir, parce que cette musique est liée à la liturgie. Ce n'est pas une musique profane.
Elle est
vraiment au service, elle a été composée pour porter les textes liturgiques, l'écriture, souvent plutôt les psaumes, parce qu'en général, c'est vraiment toute notre liturgie est composée de psaumes, essentiellement, hein, pas uniquement, mais essentiellement. Donc c'est une musique qui a été composée pour porter les psaumes et pour que ces psaumes soient vraiment mâchés dans la bouche. C'est comme une nourriture, si vous voulez, on la ressasse toute la journée, on la reprend et on la mâche et jusqu'à ce qu'après on puisse vraiment la digérer, si je puis dire, pardon de l'expression. Hein, mais donc en fait, on ne peut pas, c'est comme un peu les petits-enfants, on ne leur donne pas une nourriture solide dès le début. Et ben, ce chant grégorien, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas bien le chanter dès le début, parce qu'il faut avoir aussi acquis toute cette compréhension de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi tout ce temps de Lectio Divina, qui est l'étude de la parole de Dieu. On a dû vous en parler dans l'organisation de notre journée. On a un temps réservé pour ça. C'est au service aussi de notre vie spirituelle et bien sûr de la liturgie, qui est notre premier devoir.
Toutes les communautés cisterciennes ne donnent pas la liturgie en grégorien.
Non, non.
C'est vraiment une volonté, un désir ici à Boulor.
Alors, c'est vraiment un désir de Boulor, mais pas uniquement de Boulor, hein, oui, bien sûr. Oui. C'est parce que vous me posez la question dans ce sens-là. Hein. Il y a encore des communautés cisterciennes qui chantent en grégorien, mais qui ont passé une partie de leur liturgie dans la langue dite vernaculaire, c'est-à-dire la langue du pays. Il faut voir que au moment du concile de Vatican II, L'Église a demandé aux communautés monastiques particulièrement, mais à l'Église tout entière aussi, universelle, hein, a remis en lumière le fait que le chant grégorien et la langue latine, qui est liée au chant grégorien, bien sûr, soient conservés comme l'expression officielle de la prière liturgique de l'Église. Sans, bien sûr, tout en donnant la possibilité à ceux qui le désirent, de passer à la langue du pays, parce qu'il y a des raisons aussi de pastorale, d'évangélisation, qui peuvent permettre cela. Et Boulor, en tout cas, a fait ce choix, après le Concile Vatican II, de conserver cette musique liturgique et la langue latine qui va avec. Alors, c'est un choix de Boulor, mais d'autres communautés sont passées, comme je vous ai dit, en gardant du latin un petit peu et en passant d'autres choses. Bon, ben voilà, c'est un équilibre après à trouver. Mais je tiens quand même à le signaler, nous avons fait le passage à Boulor de ce que le Concile Vatican II nous a demandé pour la liturgie, tout en gardant cette mélodie ancienne et cette langue du latin.
Mais pourquoi le latin ? Pourquoi cette liturgie en latin ?
Alors, c'est toujours assez délicat de répondre à cette question. Je dirais que je le reporte, comme je vous le disais au début de cet entretien, sur notre vie spirituelle. Notre relation à Dieu comporte des moments où la relation à Dieu, justement, est incompréhensible. Et je pense qu'il faut accepter d'aborder tout ce qui est sacré, surtout en liturgie, par des moyens, des voies qui peuvent être humainement ou intellectuellement incompréhensible. Et je pense que la langue latine nous permet de nous rappeler qu'il y a un détachement, que la liturgie ne nous appartient pas, que la relation de l'homme avec Dieu, nous ne la commandons pas, ce n'est pas nous qui la décidons, que Dieu, par son Saint-Esprit, se manifeste à nous, quand il le veut, comme il veut, par les formes qu'il le désire. Et je pense que cette liturgie en langue latine nous aide vraiment à nous rapprocher du sens profond de la beauté de Dieu, de sa transcendance, et puis nous donne aussi ce détachement de son heure, quand il veut que son Esprit Saint nous éclaire sur une parole, sur un sens de cette liturgie, que peut-être pendant 10 ans nous aurons essayé de scruter, de comprendre, de chercher, et un jour c'est lui-même qui nous en donnera la clé. Et je pense que vous voyez, la langue latine nous permet justement de faire ce pas. J'ajouterais aussi que la langue latine, il faut l'étudier, puisque ce n'est pas notre langue maternelle. Et donc ça nécessite un effort aussi communautaire. Les novices travaillent la langue latine. Nous-mêmes, avec des années, il faut encore rechercher le sens de mots pour les comprendre. Et je pense que cet effort communautaire nous conduit vraiment avec une grande unité à louer le Seigneur. Et c'est vraiment la vocation du moine. Vraiment, les moines, dans une vie commune, entraînent leur communauté et toute l'Église et toute l'humanité à louer Dieu et à présenter vraiment toutes nos intentions devant Dieu. Donc là, je vais très très loin, je déborde même votre question, mais je pense que voilà ce que nous rappelle le latin, c'est que la liturgie ne nous appartient pas et c'est Dieu qui nous l'a donnée, si vous voulez, par l'Église, bien sûr.
Une liturgie que sœur Hélène, malentendante de naissance, peut chanter et entendre avec ses sœurs, grâce en partie au soutien de son amie d'enfance Edith, malentendante comme elle, et grâce également à Jackie, son orthophoniste, qui chaque semaine depuis près de 4 ans vient la faire travailler.
Moi je suis là en tant que ex.
Vous êtes Jacqueline, hein ?
Je m'appelle Jacqueline. Vous, Jacqueline, oui. Mais tout le monde me connaît Jackie. Oui, alors qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je viens au secours d'Hélène. Alors, c'est elle qui peut me vous raconter son histoire, parce que moi, je l'ai su quand c'était fait.
Moi, quand je suis arrivée, pour la première fois que j'ai rencontré Jackie, mes parents ont demandé à Jackie si elle pensait que je pourrais parler. Et Jackie a dit, mais oui, votre fille est capable de parler. Alors, à l'époque, je ne parlais pas, parce que je n'avais pas d'équipement qu'il fallait pour me faire parler. Du coup, c'est grâce à Jackie qui, pendant 2 ans, qui m'a permis de retrouver la parole. La parole, c'est à partir de l'âge de 10 ans que j'ai pu commencer à parler. Et puis après, j'ai continué à travailler avec Jackie dans un milieu entendant et malentendant pour me préparer à intégrer dans une école normale, hein, jusqu'au baccalauréat. Et après, pendant un an, j'ai voulu être éducatrice spécialisée. Et puis, j'avais une amie qui était une cousine de Claire de Castelbajac et qui m'a dit, enfin, voyant que je cherchais ma vocation, en fait, pourquoi je cherchais ma vocation? Parce qu'à l'époque, je voudrais remercier le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il m'a fait, parce que voyant quand même que je suis arrivée à m'en sortir malgré mon handicap et que j'étais vraiment heureuse. Et elle me disait, mais pourquoi tu ne vas pas vouloir? Et elle m'a dit, mais tu sais quand même que c'est rustique, ce n'est pas évident. Bon. Et arrivé à Boulogne, j'ai eu un coup de foudre, que je ne sais pas pourquoi. Comme si je rencontrais quelqu'un que j'aime beaucoup, et pourtant il n'y a personne. Et pour moi, c'est un mystère. C'est vraiment comme un fer qui est attiré par un aimant. On ne peut pas expliquer pourquoi, comment ça marche, comment ça explique. Voilà, donc je suis rentrée. J'ai fait quand même une semaine de retraite. Et j'étais tellement heureuse que je n'ai jamais été aussi heureuse ailleurs. Et c'est comme ça que je suis rentrée un mois après, le 8 septembre 1987. Et pendant plusieurs années, j'ai vécu... toujours très heureuse, mais en fait, pendant plusieurs années, ce qui m'a manqué, c'est que je n'ai pas eu une rééducation suivie. Et petit à petit, mon audition a baissé, enfin, c'est pas mon audition qui a baissé, mais surtout au niveau de la compréhension, qui petit à petit était tombée de plus en plus bas, et je ne comprenais plus la relation avec mes sœurs. Et depuis 4 ans, c'est Mère Abbesse, c'est Mère Emmanuelle qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne trouverais pas quelqu'un qui pourrait t'aider ?» Alors moi, je lui ai dit « Mais si, mon orpheliniste, qui est encore vivante, je pourrais peut-être lui demander si elle ne pourrait pas venir. » Et Mère Emmanuelle m'a dit « Mais oui, allez-y, faites-le. » Du coup, j'ai repris contact avec Jackie, qui me connaissait depuis quand j'étais petite. Alors, évidemment, ça a été une très grande joie pour moi et Jackie aussi de se retrouver et de reprendre le travail comme si j'avais 10 ans.
Et depuis, ça va beaucoup mieux.
Voilà, et là, je vois un progrès grâce à Jackie qui m'a beaucoup aidée. Puis je travaille aussi avec un audioprothésiste. Je remercie le Seigneur de continuer à me faire des merveilles parce qu'il n'arrête pas de me faire grandir et vraiment de continuer de mieux vivre avec mes sœurs et avec la communauté, avec les gens de l'extérieur. Et voilà.
Et avec votre amie Edith.
Ah, moi. Alors, Edith...
C'est une amie de jeunesse. On a passé le concours ensemble aussi, d'éducateur. Oui. Et après, j'ai perdu de vue sœur Hélène. Et elle a pris un parcours très différent de la mienne. Et moi, je suis rentrée dans la vie active. Mère, je me suis mariée, j'ai 2 enfants, enfin voilà. Et j'ai fait le même parcours qu'Hélène, on est malentendantes toutes les deux. J'ai suivi l'école spécialisée aussi. Donc, on travaille ensemble. C'est un besoin et c'est un plaisir de se voir, parce qu'on se voit de temps en temps, c'est pas perdu de vue. Et en plus, c'est un plaisir de retrouver notre orthophoniste.
Ouais. On essaie de progresser ensemble.
Voilà,
on se voit à peu près une fois par mois pour continuer à progresser dans la parole, dans l'écoute avec Jackie.
Il y a les voix du Seigneur sont impénétrables, encore faut-il les entendre.
C'est pas moi, ça, je peux plus ici.
Demain, ce sera le dernier de nos rendez-vous à Boulogne. Je vous attends dans le jardin de l'abbaye, dans le jardin de Pâques.